Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec François Claus.
Et avec cette question, quels sont les enjeux de la privatisation d'Aéroports de Paris ? On a quand même assisté hier à un événement politique considérable de la France insoumise à LR, en passant par les socialistes, un front uni anti-privatisation de l'aéroport de Paris, avec une initiative dont on reparlera, ce référendum d'initiative partagée introduit dans la Constitution depuis 2008, qui va nécessiter une validation du Conseil constitutionnel d'abord, puis la signature de 4,5 millions de Français pour que ça aboutisse. Mais cette levée d'une opposition unie nous a amené à nous poser la question, évidemment, des enjeux de cette privatisation. Nous sommes, et honneur aux dames, avec Valérie Rabault. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes députée PS du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous dites clairement non à la privatisation.
Je dis clairement non à la privatisation.
Et vous allez nous expliquer pourquoi. En face de vous, Roland Lescure, député La République En Marche et président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Vous êtes le rapporteur de cette fameuse loi Pacte et vous dites privatisons.
Bonsoir, et oui, privatisons, dans des bonnes conditions évidemment.
Dans des bonnes conditions, et vous allez nous expliquer pourquoi. Il va être un peu notre modérateur ce soir. Bonsoir Élie Cohen.
Bonsoir.
Économiste, directeur de recherche au CNRS, et vous allez nous décrypter effectivement ces enjeux, nous expliquer aussi ce que c'est qu'une concession, puisqu'on parle d'une privatisation avec concession de 70 ans. Bref, beaucoup de questions, mais je vous propose d'écouter la chronique de notre ami Benjamin Muller.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Bonsoir Benjamin, et vous, eh ben, vous écoutez les radios, les télés, vous nous faites une petite synthèse, et ce sujet ADP, eh bien, ça a vibré sur les ondes.
Oui, sujet dont on a, j'ai l'impression, pas fini d'entendre parler.
On parle de référendum ce matin, oui, puisqu'hier, oui, des députés et des sénateurs de l'opposition proposaient un référendum pour ou contre la privatisation des aéroports de Paris.
Eh ben super, on s'est dit ce matin, c'est un sujet fun, non ça Jean-Michel?
Le sujet n'est pas folichon, non, mais la démarche est intéressante.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement toute l'opposition main dans la main face à ce projet. Débat sur RMC à ce propos.
Je sais pas, je pense quand même que ces députés qui sont d'accord sont rien. Par contre, ils seraient prêts à partir en vacances ensemble pour faire chier Macron, quoi.
Oui, c'est peut-être pas faux, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est vrai que dans les débats, on parle plus de la démarche des députés que de la privatisation en tant que telle.
Mais là, c'est bidon! C'est une alliance de circonstances pour dire on diverde à Macron. C'est uniquement ça.
Oui, mais ça marche plutôt bien. Alors, au gouvernement, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on redoute cette initiative? La ministre Jacqueline Gourault était ce matin sur RTL.
D'abord, c'est amusant parce que c'est quand même assez rigolo. C'est un drôle d'attelage.
Ça vous fait rire.
C'est assez rigolo sur le fond parce que, d'abord.
Eh ben, super, dites-nous qu'on se marre aussi.
Que LR fasse un front uni avec LFI. Je dois dire que je ne savais pas que je verrais ça dans ma vie politique.
Effectivement, c'est très drôle. Alors l'opposition est heureuse, ce qui fait rire la majorité. Le débat est bien parti, mais il y en a en revanche que ce débat ne fait pas rire. Ce sont ceux qui se souviennent des conséquences de la privatisation des autoroutes, comme Georges qui vous a appelé François tout à l'heure au 39-21.
Actuellement, pour faire un Paris-Marseille pour un smicard, c'est impossible. Donc on arrive à des tarifs absolument monstrueux. La route devient uniquement maintenant réservée à des gens qui ont les moyens. C'est ça la réalité d'une privatisation des autoroutes. Et je trouve ça scandaleux.
Voilà, Georges qui redoute les mêmes conséquences dans les aéroports. Mais si vous, chez vous, vous n'avez pas forcément d'avis sur ce débat sur la privatisation, dites-vous que vous n'êtes pas seul.
Alors moi, je m'en contrefous que l'aéroport de Paris soit public ou privé. Quelque part, je vais dire un truc, tu connais beaucoup de mecs qui prennent l'avion tous les matins pour aller bosser, toi?
Et allez, boum! Ça, c'est de l'argument. Un autre.
Aujourd'hui, quand tu vas à Roissy, excuse-moi, cherche un resto. À part des trucs de bouffe de merde qu'il y a à Roissy, je vais te dire, des trucs de fast-food, de trucs de saloperie.
Oui, enfin, c'est pas parce que quand ça sera privé, ça sera pas forcément meilleur.
Il y aura au moins un resto qui ressemble à quelque chose de ce nom-là où tu puisses manger correctement, quoi.
Et ben voilà, François, votre débat est bien parti. Est-ce qu'on pourrait bien manger à l'aéroport?
Alors, il faut dire qu'il y a eu des progrès qui sont faits. Moi qui prends souvent l'avion, il y a des progrès qui ont été faits dans ce domaine. Alors, pour les gens qui sont contre foot, on va leur expliquer que non, justement, c'est le contraire. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Les enjeux sont à la fois intéressants et politiquement et dans le projet de société. 39-21, on attend également vos avis.
La suite de votre grand journal du soir dans un instant avec François Claus. 39-21, 50 centimes la minute. À tout de suite. Vos invités, François Claus sur Europe 1 jusqu'à 20h, la députée socialiste de Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, le député de La République En Marche des Français d'Amérique du Nord, Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, rapporteur général de la loi Pacte, et l'économiste Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS.
Et monsieur Cohen, je vais me tourner vers vous pour la première question. Les auditeurs nous ont sollicité sur cette question, et c'est un argument qui a été utilisé par le ministre des Finances, Bruno Le Maire, de l'économie et des finances, pour venir venir nous dire, mais c'est pas une privatisation réelle, il va y avoir une concession de 70 ans. Qu'est-ce que c'est que ce principe de la concession et qu'est-ce que ça garantit pour 70 ans ?
Eh bien, ça veut dire que l'État confère la gestion d'aéroports de Paris avec ses emprises terrestres, ses emprises foncières, la gestion des pistes, des commerces, du parc immobilier, dans lequel l'entreprise qui va reprendre cette concession va investir, développer, et au bout de 70 ans, tout revient à l'État. Et donc c'est très important de poser dès le départ le débat en ces termes, parce qu'on entend beaucoup de choses très étonnantes. On entend dire que la privatisation d'ADP, c'est la privatisation de la frontière. C'est quand même quelque chose de particulièrement étonnant. L'État n'abandonne pas le contrôle majeur de l'accès au territoire français, puisque toutes les polices possibles et imaginables continueront à intervenir, continueront à réguler, à contrôler, à sélectionner, à faire en sorte que les trafics se passent correctement. On entend également une deuxième chose qui est absolument étonnante, qui consiste à dire l'État privatise une rente. L'État confère à une entreprise, en gros, le droit de battre monnaie, puisque cette entreprise qui est très prospère va être encore plus prospère, ce qui veut dire que l'État abandonnerait tout contrôle, notamment sur les péages, sur la tarification des autorisations de vol, etc. C'est totalement faux également. On dit également que l'État se retire. Alors que, par exemple, on a une autorité régulatrice dans le transport aérien qui s'appelle la DGAC, qui ne perd aucune de ses prérogatives. On dit encore que l'aéroport, c'est ce qu'il y a de plus stratégique. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement stratégique, si vous tenez compte de tout ce que je viens de dire, dans la gestion d'un aéroport ?
Là, vous êtes en train de nous dire, en fait, on va privatiser les restaurants, la sécurité...
Non, mais pas la sécurité, là, c'est l'État qui restera responsable de la sécurité.
Non, mais les entreprises privées de sécurité...
Non, on va privatiser, effectivement... Pour 70 ans, un immense domaine foncier donc dans lequel l'entreprise qui reprend la concession va pouvoir investir et développer. On privatise effectivement la gestion des pistes, des commerces, des accès, mais on ne privatise absolument pas ni la frontière, ni le contrôle économique, ni le contrôle sécuritaire. Et surtout, l'État récupère le tout au bout de 70 ans.
Donc Valérie Rabault, pourquoi vous vous inquiétez tant quand on écoute M. Cohen, on va se dire ça va se faire en douceur tout ça.
Bon, alors pour toi, raison. Déjà, vous donnez les clés pendant 70 ans, vous donnez le pouvoir à un acteur privé. Est-ce qu'il y a beaucoup de concessions d'aéroports en Europe pour 70 ans ? Il y en a moins de 2%. Et là, on parle d'un des plus grands aéroports de l'Europe. Ça, c'est le premier sujet.
Le deuxième, on rappelle, 72 millions de passagers l'an dernier.
Exactement. Deuxième sujet, quand vous donnez les clés à un acteur privé, c'est lui qui peut décider quelle compagnie fait atterrir. Air France, ils peuvent les faire atterrir à, je sais pas, 23 heures. Et puis China Airlines, le faire atterrir à midi ou à 9 heures, à des horaires qui peuvent arranger les uns et les autres. Donc, c'est un outil de pilotage de ce qu'on veut faire sur l'aménagement aussi de notre territoire. Qui on veut faire atterrir quand ? Ça, c'est super important. Il y a environ 500 aéroports en Europe. 500. Il y a une étude qui a été faite sur l'actionnariat de ces aéroports. Hormis le Royaume-Uni, le Portugal et la Roumanie, tous les pays, je dis bien tous les pays, ont comme actionnaire majoritaire de leurs grands aéroports la puissance publique, que ce soit la ville, que ce soit la région, que ce soit... Mais je n'ai pas dit l'État, la ville, la région, je dis la puissance publique. Donc si tous les pays européens se disent « Ouh là là, on a quand même intérêt à garder la main », pourquoi les Français, sur le deuxième plus grand aéroport au monde, iraient donner les clés à un investisseur privé ?
Alors pourquoi, Roland, est-ce que...
Ah bah, ouais, vous ne m'avez pas laissé finir ma troisième raison, mais je reprendrai après.
Non, mais je l'ai gardé en tête. Ah, voilà, je l'ai gardé en tête, la troisième, mais là, pourquoi privatiser ?
Alors d'abord, bon, je ne veux pas me lancer dans une bataille de chiffres, mais quand on regarde les 50 plus gros aéroports en Europe, il y en a aujourd'hui la moitié dans lequel l'État n'a aucune participation.
Ça, c'est fou.
Il y en a 28% dans lequel l'État n'est pas là. C'est le cas de Lisbonne, c'est le cas de Londres, c'est le cas d'Istanbul.
Mais alors, au Royaume-Uni, hein, parce que pour moi, c'est plus dans l'Union Européenne.
Londres, on en saura un peu plus. Lisbonne, la Turquie, je parle de l'Europe. Deuxième point très important, donc il y en a 28% dans lequel... C'est totalement privatisé. Il y en a 22% dans lequel l'État n'est pas présent. Et vous l'avez dit, c'est les collectivités territoriales qui sont présentes, souvent minoritaires. Ensuite, vous avez 16% dans lequel seul l'État est minoritaire. Ce qu'on vise à faire avec la privatisation d'Aéroports de Paris, c'est une de ces trois choses. Soit on privatise complètement, soit on privatise complètement, mais les collectivités territoriales montent au capital, elles ont donc déjà émis le souhait, soit on garde une part minoritaire. Donc quand on aura fait cette opération, on sera comme les deux tiers des aéroports en Europe. Pourquoi on le fait ? Parce qu'aujourd'hui, L'aéroport Charles de Gaulle que je connais bien, vous l'avez dit, je suis député des Français d'Amérique du Nord, j'y passe beaucoup de temps. Votre auditeur l'a dit avec un certain humour tout à l'heure, c'est pas le flambeau, le bijou qu'on nous décrit. Quand vous demandez aux voyageurs internationaux de classer les aéroports mondiaux en qualité de service, Charles de Gaulle, il est 37e.
Donc vous dites, vous, c'est pour la qualité de service.
C'est pour,
c'est pas pour les 10 milliards, 15 milliards.
Accessoirement, si je peux me permettre, avec un chiffre comme ça, 10 milliards, c'est pas des cacahuètes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir désendetter l'État. Mais aujourd'hui, cet aéroport qui doit devenir un vrai aéroport de classe mondiale, il a besoin d'investir, notamment, Valérie Rabault l'a mentionné, pour la compagnie nationale. Aujourd'hui, on a une compagnie nationale qui a, elle aussi, vocation à être un leader mondial, qui n'a pas un hub, comme on dit, c'est-à-dire un aéroport dans lequel elle a l'essentiel de ses activités, de classe mondiale. Donc, pour Air France, pour Paris, pour l'Île-de-France, pour la France, qui doit être plus attractive que jamais, on a besoin de développer cet aéroport. Il faut pour ça des capitaux privés.
Valérie Rabault, votre troisième argument et réponse à Roland Lescure, avant de redonner la parole à Eddie Cohen.
Si Roland Lescure trouve que l'aéroport de Paris est mal géré, comme l'État aujourd'hui détient 50,60% des parts, mais il n'a qu'à changer de management. Si vous n'êtes pas content du directeur d'aéroport de Paris, vous en nommez un autre. Vous êtes en train d'expliquer à l'antenne d'Europe 1 que le directeur est mauvais, que le développement est mauvais.
Non, c'est pas ce que je dis,
Et que Charles de Gaulle serait mal géré. Mais quand on a 50,60% des parts, comme c'est le cas, on a le pouvoir de décision. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ou alors ça veut dire que l'État fait figuration au sein du conseil d'administration. Et là, ce serait quand même très petit bras.
L'État, il ne fait pas figuration aujourd'hui. L'État,
en vous
fait,
avez 30 secondes pour répondre.
Il est schizophrène. C'est-à-dire qu'il est à la fois au tiroir-caisse, il est la vigie du service public. Et ça, ça crée des comportements schizophréniques. En privatisant, on laisse le tiroir-caisse et on renforce la vigie de service public. Moi, je veux un État qui est un État régulateur, qui est un État fort. On protège notamment les riverains. Ça n'a jamais été fait depuis 20 ans.
Bon, et on va voir, parce qu'il y a le débat, le Roissy 4 qui va arriver dans les prochaines années. Et protéger les consommateurs, comme vous dites, ben, ce n'est pas tellement les échos qu'on a eu des usagers,
cas,
des autoroutes qui ont été privatisées.
Roland Lescure, l'avoue, c'est de dire vous vendez pour désendetter la France. Ben, moi, je trouve que brader le patrimoine...
Non, on ne vend pas que pour ça, mais ce n'est pas un objectif qui est totalement méprisable.
Continuez en studio pendant la pub et on reprend l'antenne juste après.
Quels sont les enjeux de la privatisation d'aéroports de Paris ? On continue de débattre avec vous, François Clos, et avec vos invités sur Europe 1. Vos invités, François Clos, sur Europe 1, la députée socialiste de Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault, présidente du groupe PS. À l'Assemblée nationale, le député La République En Marche des Français d'Amérique du Nord, Roland Lescure, président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, rapporteur général de la loi Pacte, et l'économiste Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS.
Pour répondre à cette question, quels sont les enjeux de la privatisation d'aéroports de Paris ? Et rappelons que nous sommes ensemble jusqu'au bout de la nuit, ce soir avec Mathieu Béliard, qui co-anime le grand débat, le deuxième sur l'Europe. France, dans quelle Europe, à partir de 20h45, et nous sommes, nous, ensemble jusqu'à 20h45. Élie Cohen, on évoquait à l'instant le débat autour de rendre cet aéroport plus efficace, plus moderne.
Je suis allé regarder les chiffres. J'avoue que je n'avais pas d'idée a priori là-dessus et j'ai quand même constaté plusieurs choses. Premièrement, la performance opérationnelle d'Aéroports de Paris a été formidablement améliorée au cours des 5 dernières années. Ils ont doublé leurs résultats. Je suis allé regarder la performance boursière. La performance boursière de l'action ADP, ça a été un doublement en 5 ans et un quadruplement en 10 ans. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que la performance opérationnelle, la performance boursière, se soit autant améliorée ? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que l'entreprise jouirait d'une espèce de rente de situation qui est la progression du tourisme, la progression du trafic, etc. Oui, mais ça n'explique pas des performances de ce type. La deuxième explication, c'est que les taux d'intérêt sont beaucoup descendus et donc la performance relative de l'action par rapport à l'obligation, si vous voulez, expliquerait cette revalorisation. Alors du coup, je suis allé chercher plus loin, en particulier pour voir s'il y avait des indices qui montraient une nette dégradation de la qualité. Parce que c'est vrai que le ressenti des passagers n'est pas toujours très positif. Et j'ai constaté qu'il y avait eu une très nette amélioration de la qualité du service sur les 5 dernières années, avec une remontée dans le classement des aéroports. Et aujourd'hui, je ne le savais pas, hein, Aéroport de Paris fait partie des 10 aéroports dans le monde, des 10 plus gros aéroports qui sont les mieux notés sur la qualité du service. Donc, tout ceci montre quoi ? Ben, ça montre, premièrement, qu'on ne peut pas dire que cette entreprise était mal gérée et que il faut la rendre au privé pour qu'elle soit bien gérée. J'ai même regardé autre chose, comment évoluer les investissements. Les investissements sur les prochaines années vont doubler. par rapport à ce qu'ils étaient au cours des trois dernières années. Une entreprise qui serait contrainte, qui n'a pas les moyens, comment peut-elle envisager de doubler son investissement ? Donc il faut chercher les vraies raisons. Alors, le gouvernement a présenté jusqu'à présent deux raisons. La première, ça consistait à dire, écoutez, on a un actif un peu pépère, on veut le céder pour investir dans du high-tech, dans du deep-tech, dans des technologies disruptives, etc. Et moi, j'applaudis, j'adore investir dans l'innovation, ça me va très bien. Donc je me dis, l'État va récupérer 10 milliards en cédant une participation un peu pépère, une quasi-obligation, et il va investir dans l'intelligence artificielle. Et je regarde, ce n'est pas du tout 10 milliards qu'il va investir, c'est le produit du placement à 2% de ces 10 milliards qui va faire 200 millions. Or, je regarde
les dividendes. Vous confirmez, Roland Lescure ?
Or, je regarde les dividendes.
Oui, enfin, j'aimerais bien un peu plus de temps pour répondre.
Les dividendes, c'est 200 millions déjà. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui.
Donc, effectivement, non, attention, parce que les dividendes d'un aéroport, ça va, ça vient. Les dividendes d'Aéroport de Paris, ils ont baissé deux fois ces 10 dernières années, de 40% entre 2008 et 2010, ce qui est normal. Un aéroport, c'est un actif économique. Donc quand le monde va bien, ça va bien. Vous l'avez dit, la performance d'Aéroport de Paris s'est améliorée et je ne souhaite pas qu'on me fasse dire qu'elle est mal gérée. Je pense qu'elle pourrait être mieux gérée. Mais tous les aéroports aujourd'hui sont très très bien valorisés, en partie parce que les taux d'intérêt sont bas, en partie parce que la performance s'est améliorée et en partie parce que le trafic a explosé. Le risque qu'on a, c'est que si on dit on affecte ces dividendes à un fonds d'innovation et que les dividendes, comme entre 2008 et 2010, baissent de 40% et que vous avez financé des start-up qui font de l'innovation de rupture et que du jour au lendemain, vous leur dites « Désolé, c'est moins 40% », là, vous rompez l'innovation. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on privatise quand même, parce que ça ne serait sans doute pas suffisant. Il y a le désendettement et il y a le fait que cet aéroport va devoir... Il est en concurrence aujourd'hui avec tous les grands aéroports mondiaux. Il va devoir... J'ai pas vos chiffres, donc je les lirai avec plaisir, vous me les enverrez sur le top 10. Moi, j'ai le top 37. Je me satisfais pas d'un top 37, c'est une enquête qui a été faite l'année dernière auprès de tous les passagers internationaux.
Valérie Rabault.
Non mais, enfin, les arguments. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, ce qu'est en train de dire Roland Lescure ? Il veut privatiser un monopole.
Parce que c'est pas quasiment, un monopole.
C'est quasiment un monopole.
Ah non.
C'est quasiment un monopole. C'est-à-dire donner les clés à un acteur privé en disant, regardez, servez-vous dans le tiroir caisse. Pendant 70 ans, c'est un scandale.
C'est
un
le scandale. Cas et de tout ça, 50% tout des ça, aéroports en
ça,
Europe.
Tout ça pour récupérer 10 milliards d'euros pour baisser de 0,05% la dette française. Franchement, c'est inadmissible. Je suis désolée, Roland Lescure. Est-ce que Francfort est public ou privé ?
Francfort est détenu en partie par les collectivités locales.
C'est de la puissance publique. C'est de la puissance publique. Est-ce que Hambourg est détenu par la puissance publique ? Oui. Est-ce que Berlin est détenu par la puissance publique ?
Est-ce que Rome est détenu par l'État ? Non. Est-ce que Lisbonne, on peut envoyer des noms d'oiseaux ou des noms d'aéroports à la figure ?
Mais c'est pas des noms d'oiseaux, c'est du sérieux.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des aéroports publics qui fonctionnent très bien.
Est-ce que l'aéroport de Nice privatisé fonctionne mieux depuis qu'il est privatisé ?
Oui,
la Cour des comptes l'a dit.
À Toulouse.
Toulouse.
Ça, oui, c'est sûr.
Fonctionne moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'actionnaire chinois ? Les deux premières années, il s'est servi, il a siphonné les réserves qui avaient été faites dans la société. En 2017, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a changé la durée d'amortissement d'un certain nombre de biens, ce qui a généré immédiatement 12 millions d'euros de résultats nets. Oui, vous le regrettez, mais ce n'est pas des regrets qu'on vous demande.
Non, mais ce n'est pas nous qui avons privatisé un port de Toulouse, excusez-moi.
Celui qui a signé, c'est Emmanuel Macron.
Et vous le savez parfaitement. N'allons pas là, s'il vous plaît.
Non, mais on voit bien, ici le hiatus. Il y a des privatisations réussies, d'autres qui ont échoué. Il y a des aéroports publics qui marchent bien et des privés qui marchent.
Pourquoi elles ont réussi ? Toulouse a échoué.
Allez-y, une seconde.
Parce qu'on n'avait pas de connaissance opérationnelle de l'actionnaire. On a corrigé ça avec Nice et Lyon, et évidemment, ce sera le cas pour l'aéroport de Paris.
Évidemment, il faut voir. Ce qu'il y a derrière, c'est évidemment... Valérie Rabault, on est obligé, parce que nous, on est privés aussi, et on doit vivre.
Mais on revient dans...
nationaliser Europe 1.
On revient dans un instant.
Et cette question jusqu'à 20h, quels sont les enjeux de la privatisation d'aéroports de Paris ? Le débat se poursuit avec vos invités, François Clos sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec François Clos et avec vos invités François. Ce soir, Valérie Rabault, députée PS de Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Le député La République en marche des Français d'Amérique du Nord, Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, rapporteur général de la loi Pacte, l'économiste Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS.
Élie Cohen, lorsque l'on parle de désendettement via le cash que va libérer cette privatisation, c'est un process qui a marché dans l'histoire économique économique française ?
Ah, bien entendu, à partir du moment où vous privatisez, vous désendettez l'État en affectant le produit des privatisations à la résorption de la dette. Et là, il y a un enjeu symbolique majeur, et je me demande s'il ne joue pas un rôle décisif dans cette privatisation. C'est qu'en privatisant et en affectant le produit de la privatisation d'ADP au désendettement, on évite de toucher le chiffre magique de dette qui fait 100% du PIB. Parce que ce demi-point de PIB qu'on va récupérer comme ça, il va nous permettre de descendre en dessous des 98,5, 99 que nous avons actuellement. Et donc, ça nous éloigne de la borne des 100%. Et je comprends donc que symboliquement, le gouvernement veuille éviter de toucher la borne des 100%. Mais vous voyez bien, là, on est dans des raisonnements symboliques sur une grandeur financière. Alors même qu'un raisonnement économique simple conduirait à dire privatiser aujourd'hui une entreprise qui donne un rendement de 2% alors que l'État s'endette à moins de 1%, on ne voit pas très bien l'intérêt. Il faut donc intégrer peut-être cette dynamique-là.
Alors les symboles sont importants. Deux choses là-dessus. On parle de symboles et Eli Cohen vient de parler pendant 2 minutes de manière brillante, comme il le fait toujours, du fait que l'État français est endetté à 98,5 ou 100% du PIB. C'est ça le problème. Alors, effectivement, ce n'est qu'un début, mais il est temps qu'un gouvernement commence à désendetter la France.
Mais très bien,
on est aujourd'hui dans je l'assume.
Mais je dis ce soir sur Europe 1.
Vous avez le beurre,
c'est au début que c'était pour financer l'innovation.
L'argent du beurre, de l'innovation, et en plus, le troisième élément, qui est qu'on a un aéroport qui va s'améliorer. Et en plus, on fait ça tout en assurant on ne fera pas les erreurs des autoroutes, on ne fera pas les erreurs de Toulouse, on s'inspirera plutôt des privatisations qui ont fonctionné. Allez-y,
mais
allons-y.
Mais M. Lescure, comment vous pouvez dire ça ? Quand on a demandé le cahier des charges au ministre de l'économie et des finances, vous savez ce qu'il nous a donné ? Le sommaire du cahier des charges.
Non.
Le sommaire du
vous
cahier des
charges.
Vous savez
très bien que ça n'a jamais été fait.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui est caché là ?
Non, attendez.
Ce qui est caché ?
Ça n'a jamais été fait, ce qu'a fait M. Le Maire. Il a proposé aux parlementaires d'aller consulter l'intégralité du cahier des charges. Il y a 3 parlementaires qui ont été le faire. Ça n'a jamais été fait auparavant, avant qu'une loi soit votée. Le cahier des charges était disponible.
Ce cahier des charges, il a été évoqué au mois de septembre et octobre 2018. Le sommaire du cahier des charges a été envoyé le jour de la discussion au Parlement, aux parlementaires. Donc si vous ne pensez pas qu'il y a un peu, que vous fichez un peu des parlementaires, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Deuxièmement, vous dites on ne fera pas les erreurs du passé, mais qui nous dit que vous ne referez pas les erreurs du passé ?
Il y a un certain nombre de
quand on parlait des erreurs, parce que les auditeurs parlaient des erreurs des autoroutes.
La privatisation. Ouais. Non, mais je parle de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, qui est un scandale absolu. Mais un scandale absolu. Sous le précédent mandat, j'étais rapporteur du budget. Je suis allée lire dans le bureau du ministre, qui était à l'époque Emmanuel Macron, le contrat de privatisation. Ce qui, effectivement, fait partie des prérogatives du rapporteur général. Franchement, moi, je pense que dans une manière de négociation, la puissance publique n'est pas assez solide face à des acteurs privés qui sont meilleurs qu'elle.
Alors, voilà. Valérie Rabault l'a dit, elle était rapporteur du budget au moment de la privatisation de Toulouse, de Nice et Lyon.
J'ai émis des avis négatifs à chaque fois.
Je pense qu'elle a quand même noté. Oui, mais ça a été voté. Le Parlement a voté.
C'est un 49-3.
Nice et Lyon, c'est
un 49-3, monsieur Lescure.
Mais vous ne croyez pas aux procédures constitutionnelles ?
Excusez-moi,
si je peux terminer. Nice et Lyon sont reconnus par tout le monde, y compris la Cour des comptes, comme des privatisations réussies. Vous avez raison, Toulouse, c'est un échec, en partie parce que celui qui a acheté n'avait pas les connaissances opérationnelles, et ça, on s'est engagé à ce qu'on ne vende pas à n'importe qui, à n'importe quel prix, mais bien à des gens qui connaissent le métier. Ça, on
s'est engagé. Les lois de base, les règles de base de ce qu'on pourrait appeler une privatisation réussie, c'est quoi ces lois de base ?
Une privatisation réussie, c'est d'abord une privatisation qui concerne un secteur d'activité dans lequel l'État estime qu'il n'a pas une valeur ajoutée particulière. Donc en gros, plus une entreprise est immergée dans le marché, plus elle subit la concurrence, plus elle est insérée dans les circuits économiques, et moins il y a justification à ce que l'État la contrôle totalement, majoritairement ou même minoritairement. Deuxièmement, pour que ce soit une privatisation réussie, il faut qu'il y ait sur place, dans l'entreprise, un management qui a un projet d'entreprise et qui est capable de le mettre en valeur et qui surtout a la vision des transformations et des améliorations. Et ce qui s'est passé actuellement avec ADP, avec le retrait, un premier retrait de l'État, parce que la participation de l'État était plus élevée en 2004, elle a baissé pour atteindre 50,6%. Puis troisièmement, il faut que le produit de cette privatisation contribue à la stimulation et au développement économique. Moi, quand j'ai entendu dire qu'on allait affecter 10 milliards à l'innovation et notamment au deep tech, moi j'étais tout à fait prêt à soutenir et j'ai même soutenu publiquement cette privatisation. Mais à partir du moment où il s'agit simplement de faire de la cosmétique sur le niveau de la dette, je vois moins bien la justification.
On a compris. Dernier mot pour vous, Valérie Rabault, l'initiative partagée, le référendum, là, ça a une bonne chance d'aboutir?
Et on l'espère, on va tout faire pour. C'est la première fois, il faut bien voir les votes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Hormis La République En Marche et son allié le Modem, tous les groupes ont voté contre la privatisation.
Ce n'est pas vrai.
Et donc, nous avons réussi à récolter 248 signatures de parlementaires, 248, pour dire nous voulons inscrire que le fait que Aéroport de Paris est un bien public et donc ne peut pas être privatisé.
La partie est presque terminée à l'Assemblée. On vote demain.
Oui, sauf que là, il y a un processus. Et dans le contexte qu'on écoute le peuple, c'est pas mal aussi, non?
Non, mais oui, on peut pas dire on écoute le peuple. C'est très important. On ne peut pas mettre la démocratie parlementaire en concurrence avec la démocratie participative. Il faut faire très attention.
Et là, c'est un autre débat.
On joue
avec
le feu, on ne respecte plus le Parlement.
C'est un débat politique qui est engagé, vous l'avez compris.
Beaucoup,
on a essayé de vous apporter quelques clés.
Vous ne respectez pas beaucoup les oppositions à l'Assemblée nationale ni au Sénat.
8 mois de débat, des heures de débat là-dessus.
Merci beaucoup. Vous avez vu, on a du mal à siffler la fin du match, si je puis dire. Merci à Élie Cohen. On écoute toujours vos conseils avec beaucoup d'attention. Merci à Roland Lescure et à Valérie Rabault. Débat en cours, on l'a compris.
Et votre grand journal du soir qui joue les prolongations en attendant le grand débat diffusé en direct sur Europe 1 et sur CNews.
Quelle France dans quelle Europe? C'est la question à laquelle sont confrontés les 7 chefs de parti qui débattent sur le plateau de CNews et sur Europe 1. Et nous, on va soulever les clés dans un instant.
On retrouve Mathieu Béliard dans un instant et l'information avec Isabelle Millet juste avant 20h sur Europe 1.